Radio Prague, les informations.
Bienvenue sur Radio Prague. Benjamin Netanyahou et 7 ministres israéliens ont effectué une visite à Prague. Mise en détention préventive de 7 personnes proches de David Rath et soupçonnées de corruption. 3 observateurs militaires tchèques ont été envoyés en Syrie. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a été en visite en République tchèque ce jeudi. À l'issue de son entretien avec son homologue Petr Nečas, Benjamin Netanyahou a apprécié la République tchèque en tant qu'allié le plus proche d'Israël au sein de l'Union européenne. Comme annoncé par le chef du gouvernement tchèque Petr Nečas, les deux pays sont préoccupés par le programme nucléaire iranien. Petr Nečas a également souligné que la République tchèque reconnaissait le droit d'Israël de faire face aux actes de terrorisme et rejetait toute tentative de remise en question de la légitimité de l'État israélien. Les juges du tribunal régional d'Oustina de Labem, en Boyne du Nord, ont décidé de la mise en détention préventive de 7 personnes arrêtées dans l'affaire pour utilisation frauduleuse de fonds européens, abus de biens sociaux et trafic d'influence. Parmi les inculpés figurent la directrice de l'hôpital de Kladno, Katarzyna Pantsova, et l'ex-députée du Parti civique démocrate, Petr Kot. Le principal accusé dans l'affaire, le député social-démocrate et ancien président de la région de Bohême centrale, David Rath, lui, avait déjà été mis en examen pour corruption et incarcéré. Mercredi, David Rath a démissionné de ses fonctions de président de la région de Bohême centrale et a quitté le parti social-démocrate. Il n'a toutefois pas renoncé à son mandat de député. Pas moins de 6000 personnes âgées pourraient participer à la manifestation contre la réduction de la valorisation des retraites prévue pour le 30 mai prochain sur la place Palach au centre de Prague. Le cortège se dirigera ensuite vers le siège du gouvernement. L'information a été communiquée ce jeudi par Zdeněk Pernes, président du Conseil des seniors de République tchèque. Ce dernier représente environ 300 000 personnes réunies au sein de différentes organisations de retraités. La République tchèque a envoyé 3 observateurs à Damas suite à une demande de l'ONU. Prague a décidé de soutenir la mission de supervision en Syrie. Composée de 300 observateurs militaires désignés par le Conseil de sécurité de l'ONU, cette mission a pour but de surveiller le respect du cessez-le-feu négocié entre le gouvernement syrien et les forces de l'opposition afin de mettre un terme à la crise qui dure depuis maintenant plus d'un an dans le pays. Le ministère tchèque de la Défense a fait savoir que les 3 militaires envoyés avaient déjà opéré dans des missions de paix de l'ONU en République démocratique du Congo et en Irak. Selon les calculs de l'Institut libéral, qui prennent en compte les estimations de l'Organisation de coopération et de développement économique, le 8 juin sera le dernier jour de l'année 2012 au cours duquel les contribuables tchèques travailleront pour s'acquitter de leurs impôts et financer les dépenses de l'État. Le 9 juin sera donc le moment fictif, considéré comme le jour de libération fiscale, à partir duquel les tchèques travailleront pour leur propre compte. La 18e foire internationale et festival littéraire Le Monde du Livre a ouvert ses portes ce jeudi à Prague, au Palais industriel. Le pays mis plus particulièrement à l'honneur cette année est la Roumanie, tandis que les deux principaux thèmes retenus ont été la littérature dans la région de la mer Noire et la bande dessinée. Plusieurs auteurs français et francophones font également partie des invités, par exemple l'écrivain algérien Boualem Sansal ou l'écrivain turc vivant à Paris Nedim Gürsel. On passe au sport. L'équipe de République tchèque de hockey sur glace affronte la Suède ce jeudi soir à Stockholm en quart de finale du championnat du monde. Il s'agit d'un match à élimination directe. La rencontre est diffusée sur un écran géant à Prague, sur la place de la Vieille Ville. Côté météo, vendredi, jour de la fête des Natacha, le temps sera ensoleillé sur l'ensemble du territoire. Les températures restent fraîches pour les saisons, entre 14 et 18 degrés, mais elles devraient remonter au cours du week-end. C'était les informations de Radio Prague par Magdalena Rosinkova.
Faits et événements en République tchèque.
Une importante délégation israélienne composée du chef du gouvernement Benjamin Netanyahou et de 7 ministres de son cabinet en visite à Prague. Visite du prieuré du Ménil-Saint-Martin, situé dans le sud-ouest de la France, où a été organisée une soirée Václav Havel. Ce sont les thèmes dont nous allons vous entretenir dans la première partie de notre émission. La suite sera réservée à la rubrique touristique, dans le cadre de laquelle Jelka Gisublova vous invitera à la ville de Most en Bohême du Nord et à la découverte d'anciens terrains miniers cultivés. Merci d'avoir choisi Radio Prague. Merci de rester avec nous. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, est en visite officielle à Prague à partir de ce jeudi après-midi. Il se déplace en compagnie de 7 de ses ministres qui participeront à une réunion de travail avec le gouvernement tchèque. Retour sur les enjeux d'une visite et sur les relations privilégiées qu'entretiennent les deux pays depuis la chute du rideau de fer. Anna Kubishta.
La première visite de Benjamin Netanyahou à Prague remontant à avril 2011, on peut aisément dire que cette nouvelle visite du chef du gouvernement israélien, un an à peine après celle-ci, est une preuve des bonnes relations qui prévalent entre Israël et la République tchèque. D'autant qu'en septembre dernier, c'était au tour du premier ministre tchèque Petr Nečas de se rendre à Jérusalem avec plusieurs de ses ministres. Un voyage suivi d'autres rencontres entre ministres des deux pays. Jiří Schneider est ancien ambassadeur de la République tchèque en Israël. Il met en perspective les relations israélo-tchèques.
Je pense qu'il y a d'autres pays avec qui Israël entretient d'aussi bonnes relations. Il est inutile de jouer sur une sorte d'exception tchèque, mais de notre côté, la dynamique de nos relations bilatérales ces dernières années ne cesse d'augmenter. Par exemple, l'an passé, le chiffre d'affaires commercial a atteint des milliards de dollars. C'est une croissance incroyable depuis le rétablissement de nos liens diplomatiques. Autre point auquel tous les premiers ministres des deux pays font référence, il y a un vrai lien entre les deux pays qui s'inscrit dans l'histoire.
Soužití dobrých vztahů a i v moderních dějinách je tam mnoho společných bodů.
Une histoire qui remonte à Tomáš Garrigue Masaryk, premier président tchécoslovaque qui avait soutenu le mouvement sioniste. Aujourd'hui, au sein de l'Union européenne, la République tchèque est un allié fort d'Israël, au même titre que l'Allemagne et l'Italie. Le reste des pays de l'Union européenne est de manière générale beaucoup plus critique à l'égard d'Israël et condamne fréquemment sa politique dans les territoires occupés. Mais côté tchèque, on se veut l'allié indéfectible, surtout après les années de propagande communiste anti-israélienne qui avait été un coup dur pour les relations bilatérales. Lors de la dernière visite de Benjamin Netanyahou à Prague, le renforcement de la coopération entre les deux pays en matière de recherche et de développement faisait partie des thèmes clés des discussions. De quoi s'agit-il exactement ? Réponse de Jiří Schneider.
Depuis 3 ans fonctionne le programme appelé le pont Gesher en hébreu. Les deux gouvernements y injectent des financements qui sont ensuite utilisés par des entreprises pour des projets de sciences appliquées. À l'heure actuelle, le programme est spécialisé dans le domaine des hautes technologies de la santé. L'éventail de ces domaines est en train de s'élargir. Le but est que le programme soit compétitif, que s'y inscrivent le plus de participants possible et que les meilleurs soient choisis.
Enfin, autre domaine qui prouve le dynamisme des relations bilatérales des deux pays, le tourisme, au cours de la visite de Benjamin Netanyahou, devrait être également élargi. L'accord de coopération aérienne civile, qui jusque-là ne permettait qu'une liaison par les airs entre Prague et Tel Aviv.
Le prieuré du Ménil-Saint-Martin se trouve près de la commune de Montaut, entre Bordeaux et Toulouse, dans le sud-ouest de la France. Dans cette ancienne ferme, dont certaines parties datent des XIIIe et XVIIIe siècles, a été fondée en 1980 une communauté religieuse de moines de l'ordre des Prémontrés. Rachetée en 1992, rénovée par le pianiste concertiste et pédagogue Emmanuel Ferrer-Lalouet, la propriété est devenue un lieu de concert de musique de chambre auquel participent des instrumentistes et chanteurs de renommée internationale. Dimanche dernier, ce lieu charmant et intimiste a accueilli une soirée musicale littéraire consacrée à l'ancien président tchèque Václav Havel. Une soirée composée de lectures d'extraits de son œuvre et de musique classique tchèque, interprétée par la soprano Stella Marisova et la pianiste Rose Regla. À cette occasion, Magdalena Hruzinkova a pu rencontrer Stanley Hanks, musicien originaire de Costa Rica, un des deux maîtres des lieux et organisateur de manifestations culturelles au Ménil-Saint-Martin. Il nous a fait découvrir le prieuré.
C'est donc une ancienne ferme qui consistait de 2 bâtiments, qui avait une grange à foin, une grange animaux et qui a un très joli pigeonnier qui date de 1738. et deux grands cyprès. Donc, il se peut que sous le cyprès, il y ait des tombes de protestants, parce que c'est le signe justement qu'il y avait des protestants sur la propriété. On ne le sait pas. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas sur cette propriété. Et il y a donc une maison où avant il y avait une grange animaux, mais qui a été transformée en chapelle avec sa sacristie, avec une scène sur laquelle maintenant nous avons mis le piano. Avant il y avait un hôtel, donc pour un hôtel AUTEL, donc pour les services religieux. Et dans la maison principale, il y a un grand réfectoire, comme dans les couvents, où les moines et maintenant les étudiants de musique peuvent manger ensemble. Ils ont des chambres individuelles avec des salles de bain juste en face.
Et avant, c'était les cellules des moines.
Et avant, vous avez raison, c'était les cellules des moines qui vivaient ici. Mais ils n'ont vécu ici sur cette propriété que 10 ans.
Et vous avez beaucoup d'animaux ici. J'ai vu deux chiens, des chats,
oui, avant,
des chèvres.
Oui, c'est vraiment la campagne pure. Et les gens apprécient ça à cause de ça. Avant, il y avait des poules, des oies. Mais au moins maintenant, il nous reste, parce qu'on s'occupe plus de la musique que des animaux, donc on a quand même deux chiens, trois chats et surtout les chèvres aussi pour manger de l'herbe. Mais surtout, c'est un endroit qui... alterne beaucoup entre le calme très paisible de la campagne que peut-être vous entendez avec les grillons qu'on entend maintenant, où il y a presque personne, où certains musiciens viennent se détendre pour jouer du piano, puisqu'il y a quand même 6 pianos dans la maison. Et sinon, les semaines d'activité ou les soirées d'activité, comme celles que vous venez de vivre, où on peut avoir un public d'entre 40 et 60 personnes ou plus.
Et votre public, donc, il a quel âge en moyenne? Il est de quelle nationalité? Il paraît que vous avez beaucoup d'auditeurs anglais.
Tout à fait, Magdalena. C'est une région où il y a énormément de retraités anglais ou de gens qui sont encore qui ont encore une profession, mais qui, grâce au vol low cost qu'il y a de nos jours, peuvent faire les allers-retours entre Londres ou Southampton et Bergerac, qui est l'aéroport le plus proche. Donc, il y a beaucoup d'Anglais qui sont venus de la région retaper les maisons, comme on dit ici, et qui maintenant vivent presque à temps complet ici, ou parfois même si ce sont des retraités à temps complet, et qui composent à peu près 50% de notre public. Il est connu en Aquitaine en général que des associations de musique classique en campagne ne survivent pas sans un public anglais. C'est très important. Le public français n'est pas assez nombreux pour ce style de musique. Et en plus, ce sont des gens qui sont très occupés, puisque les Français, c'est quand même un peuple qui travaille beaucoup. Le public des concerts est très reconnaissant et nous sommes vraiment très, très heureux de faire des rencontres constantes avec de nouveaux musiciens qui viennent justement et qui demandent aussi de jouer dans la salle pour roder leur programme, pour avoir un contact avec un public, un contact quand même très intime. Le contact ici est plus intime que quand vous jouez dans un centre culturel en ville.
Pour en savoir plus sur les concerts Maigny-Saint-Martin, consultez le site www.musimenil.fr. Vous êtes toujours sur Radio Prague, émission en langue française.
Vous avez dit la République tchèque ? Voyagez donc.
Direction aujourd'hui la ville de Most, située à 85 km au nord-ouest de Prague. Elle est, avec ses 67 000 habitants, la deuxième ville de la région d'Ústí nad Labem et la 14e à l'échelle de la République tchèque. L'extraction de lignite qui se poursuit dans la région depuis le 19e siècle fait de Most la première ville minière de Bohême. Dans les années 1970, la cité historique de Most, à l'exception d'une église déplacée, a été sacrifiée. Ce qui attire aujourd'hui les touristes à Most, c'est un safari tour à la découverte d'anciens terrains miniers et mis en culture. En effet, la ville est réputée pour ses nouveaux lacs artificiels, ses espaces verts, son hippodrome, son autodrome, ses pistes de patins à roulettes. Most porte en plus l'attribut de ville la plus verte de République tchèque, comme l'affirme son maire Vlastimil Voska, l'invité de Jarka Gisiblova, dans ce nouveau guide touristique de Radio Prague.
Město Most a jeho okolí je velmi zajímavým tedy místem.
La ville de Most et ses alentours sont attrayants pour les visiteurs par ses possibilités de repos et de loisirs. En ce qui concerne l'histoire de la ville, elle a toujours été assez mouvementée. La première mention écrite du site apparaît au XIe siècle dans la chronique de Cosmas. En 1247, Most reçoit le statut de ville royale. Au Moyen-Âge, elle souffre de guerres hussites. Des troupes suédoises ravagent la ville pendant la guerre de 30 ans. L'exploitation intensive du lignite commence au milieu du XIXe siècle. La décision de liquider la cité historique de Most est prise en 1964. Cette date marque un tournant pour la ville et ses habitants. Ainsi, entre 1966 et 1982, tous les bâtiments de l'ancienne ville de Most seront progressivement démolis, à une exception près, l'église gothique de l'Assomption de la Vierge.
La démolition de la cité historique de Most a pour conséquence l'édification de nouveaux quartiers d'habitation. Seul le quartier résidentiel au pied de la colline de Hnevin, qui domine la ville, a été sauvegardé. Les villas dans ce quartier ont été bâties entre 1900 et 1930. Pour le maire de Most, la nouvelle ville a été conçue de manière généreuse, avec des rues larges, des trottoirs spacieux et avec de nombreux espaces verts.
Nous sommes très fiers que notre ville porte l'attribut de ville verte. La mairie veille à ce que la protection de la nature soit à un haut niveau. La ville de Most est entourée des anciennes roches volcaniques de Hnevin, Resl et Spichak. Dans le passé, l'activité minière se déroulait autour de la ville tout entière. Ses habitants ont été contraints de s'habituer à la présence de machines aux portes de leur demeure. Pratiquement pas un seul mètre de terre aux abords de l'actuelle ville de Most n'a un terrain d'origine. Il s'agit, dans leur ensemble, d'anciens terrains miniers réaménagés.
Le projet de reconversion, littéralement de remise en culture, mis en œuvre à Most est le plus important du genre jamais réalisé en République tchèque. Hippodrome, autodrome, lac artificiel et autres grandes constructions sont le résultat de la naissance d'un nouveau paysage transformé en terrain de vacances et de loisirs, raconte Vlastimil Voska.
L'actuel complexe de loisirs Bénédicte est né dans le cadre de la remise en culture d'une ancienne mine de lignite. Il offre un lac, une piste de patins à roulettes, un restaurant. Le lieu est devenu la destination préférée des amateurs de sport nautique. À quelques kilomètres de là, l'immense remblai de Velebuditse, issu des terres de déblayage d'une des plus grandes mines locales, a permis la construction d'un hippodrome. En tout, 327 millions de mètres cubes de terre ont été déposés à cet endroit en 30 ans. La première course hippique y a été disputée en 1997. Tout le monde connaît le lac artificiel Matilda, fruit de la submersion d'une autre mine de charbon à ciel ouvert, sans oublier l'autodrome ou encore l'aéroport de Most. Toutes sont des constructions érigées sur d'anciens terrains remis en culture, dont personne ne dirait aujourd'hui que c'était des mines.
À part les lacs géants de Matilda, Milada ou Verbensky, on est en train d'achever le remplissage du lac de Most, retenu d'eau d'un peu plus de 311 hectares, soit une surface plus importante que le très recherché lac Macha, dans la région du massif central de Bohême. Le lac de Most a été créé sur le site de l'ancienne mine éponyme qui se trouvait juste au milieu de l'ancienne cité historique de Most et qui a terminé son activité en 1999, observe Ružena Martinková, guide de touristes à Most, qui nous conduit devant l'ancienne église des canals de l'Assomption de la Vierge. L'église a été déplacée à cet endroit en 1975 à une distance de 841 mètres, se souvient-elle.
Pozdně gotická stavba.
Cette église de style gothique tardif est la dernière construction dans ce style sur le territoire tchèque. Gravement endommagée par un incendie qui s'est déclaré en Most en 1515, l'église a été remaniée 2 ans plus tard et elle a gardé depuis son aspect actuel. Autre monument de Most, le château de Hnevin, est une réplique du château d'origine conquis et pillé par des troupes suédoises pendant la guerre de 30 ans. En partie, le château a été rénové à la fin du 19e siècle grâce à une collecte organisée par des habitants de Most. La restauration complète a pris fin il y a 10 ans. Au sommet de la colline de Hnevin se trouve une tour panoramique permettant de voir les monts métallifère et le massif central, et une observatoire. Les locaux du château servent à des cérémonies de mariage et à l'organisation des manifestations culturelles, comme les journées du pharmacien Kelly en été.
Le pharmacien et alchimiste Edward Kelly est un personnage emblématique de Most, emprisonné par l'empereur Rodolphe II d'abord au château de Krivoklad puis à Hniewin. Il décide de s'empoisonner, mais avant de mourir en 1597, il maudit Most, la condamnant à disparaître de la surface de la terre, ce qui se produit effectivement 4 siècles plus tard. Notre visite continue dans la localité de la mine appelée l'armée tchécoslovaque. 4 630 000 tonnes de lignite y ont été extraites en 2010. La voix de Josef Gertner se perd au milieu du bruit des machines.
Nous voilà sur la terrasse de la mine de l'armée tchécoslovaque, une des mines toujours en activité. Le lignite extrait dans cette localité est d'excellente qualité. Pour se faire une idée des réserves de charbon dans toute la région minière au pied des monts métallifères, il y a une couche souterraine continue de lignite haute de plus de 30 mètres. 30 mètres. Tady je souvislá
vrstva 30 mètres uhlí. La vue qui s'ouvre devant nous est sans précédent et fait penser à un paysage lunaire. Partout autour de nous, des exploitations à ciel ouvert allant une profondeur de 140 mètres. Au fond, des pelles mécaniques gigantesques extraient des masses de terre. En face de nous, la silhouette du château de Jezeří se dresse, isolée à l'horizon des monts métallifères, unique témoin de la civilisation d'autrefois. Siège de la famille Lobkowicz depuis 1623, le château voué dans un récent passé à l'abandon est devenu le symbole de la lutte contre la dévastation irrémédiable de la région. Sur la route du charbon, ou comme on dit en tchèque un safari minier, ou helné safari, les touristes peuvent rejoindre en voiture tout terrain des chantiers d'extraction et regarder de près les gigantesques machines. Ruzhena Martinkova nous montre encore une curiosité de Most, une église orthodoxe en bois construite en Roumanie, transportée par camion à Most et érigée non loin de l'église gothique déplacée. Elle appartient à la communauté de l'église orthodoxe qui a une place traditionnelle à Most. À mi-chemin entre les deux églises, la municipalité souhaite installer une réplique en miniature de la cité historique de Most disparue. Des projets sont encore nombreux, comme celui de retour des vignes au pied de la colline de Hniewin, observe notre guide.
La culture de la vigne à Most remonte au Moyen-Âge. En l'an 2000, on a renoué avec la tradition ininterrompue. La vigne nouvellement plantée à la colline de Hniewin s'appelle Livia, d'après sa patronne Livia Klausova, l'épouse du président de la République.
Le charbon est extrait à Most par le groupe Czech Coal. Sa structure est formée de 3 compagnies sœurs, Czech Coal, la société par action, qui est une société de négoce et de commerce de charbon, d'énergie électrique et de quota d'émission de CO2, la compagnie du charbon de Litvinov et la compagnie Vrchanska. Le groupe emploie 5500 personnes, soit environ 8% de la population active de la région d'Ouski-Nadlabem.
Jelka Gisiblova vous a invité à la découverte de la ville de Most en Bohême du Nord et à la découverte d'anciens terrains miniers récultivés. Merci d'avoir suivi cette émission et n'oubliez pas que vous pouvez trouver tous nos programmes en audio et en texte sur www.radio.cz/fr.